Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Alors après l'émission anniversaire de la semaine dernière, on avait beaucoup parlé de hockey sur gazon. On va donc ce soir coller, j'allais dire, à l'actualité. On a vécu un fou week-end de sport. Hein. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Et notamment pour accompagner ce fou week-end de sport, eh ben, on va perpétuer une tradition. On en a pris l'habitude depuis maintenant, je crois, deux saisons. Hein. Ça fait la troisième participation. On va parler de la finale du Super Bowl et on va présenter l'activité Foot US avec le club venu de Choisy-le-Roi, le club voisin. Bonsoir, merci messieurs. Représenté par Kevin.
Enchanté.
Ouais, bonsoir Kevin. Je crois que ce n'est pas votre première ici à la radio.
Si, c'est la première.
Ah bon, c'est la première. Oui. Ouais. Et puis donc Xavier aussi, voltigeur, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, bonsoir Xavier. Alors naturellement, on va profiter de l'occasion pour revenir un petit peu sur ce qui est un des événements forts quand même de l'année sportive et puis parler un petit peu mieux de votre activité. On devait avoir un deuxième club, le Paris 60, Paris 15, donc les Dragons de Paris. Apparemment, il y a des petits problèmes de communication dans, chez eux. Hein. Donc, malheureusement, les gens qui devaient venir ne viennent pas. C'est pas bien, c'est dommage. C'est une exposition médiatique qu'ils vont rater. Mais enfin, bon, voilà, tant pis pour eux. Et puis, on parlera naturellement de MMA avec Benoît, hein, qui nous dira tout plein de choses sur ce qui s'est passé depuis un mois. Et puis, elle n'a pas décollé de la télé. Elle a tout suivi aussi ce week-end. C'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Ça va bien ?
Bonsoir à tous. Oui, très bien.
Tu vas nous parler de biathlon.
Hein. Exactement.
Et puis, la semaine prochaine aussi, biathlon. Biathlon et natation, c'est-à-dire que toi, tu t'es attelé à suivre les championnats du monde, en plus avec d'excellents résultats pour le biathlon.
Des merveilleux résultats.
Voilà. Alors, on va commencer, nous, d'abord, et puis on retrouvera naturellement le point foot à partir de 20h05 avec notre ami Stéphane Dezenclos. Et ensuite, ça sera au bout du foot, au lendemain d'une autre finale, la CAN. Eh bien, Malik et tous les intervenants débrieferont cette CAN 2023 et puis également commenteront, comme ils le font régulièrement, l'actu foot. Kevin, pourquoi le football américain ? C'est arrivé comment dans votre vie ?
Alors, comment c'est arrivé ? Je suis quelqu'un qui fait énormément de sport de base.
Oui,
oui. Voilà. J'ai voulu changer, en
oui.
fait. Normalement, je fais basket,
ouais. sport vous de combat. Vous avez fait quoi comme sport au début ?
Enfin, j'en ai fait trop.
Non, mais c'est pas grave. c'est ça qui m'intéresse.
J'ai fait du judo, du oui. taekwondo, du basketball, de la boxe anglaise. Du,
ah ouais
taekwondo, même du tir à l'arc, pour vous dire.
Oui, ouais.
Et pendant en fait une petite longue période, je me suis retrouvé sans rien faire. Et en fait, j'ai un ami qui, lui, tout simplement, avait rencontré les 89ers, avait adoré l'ambiance et me voyait bien en tant que joueur. Donc, il m'a dit, écoute, viens faire un test, viens chez nous, très bonne ambiance, tu vas adorer. Et effectivement, je suis venu et l'ambiance m'a énormément plu. Cet esprit convivial. Et,
ouais. Ça fait combien de temps ?
C'est ma troisième année.
Troisième année. Hein.
Exactement.
Alors c'est vrai que je parlais de Choisy-le-Roi, vous avez pris l'habitude de venir régulièrement au lendemain, vous êtes venu souvent en bande. On sent un sacré groupe de copains.
Ah oui, c'est une ambiance qui, au-delà de la compétition, au-delà des matchs, on est surtout, c'est un esprit familial et c'est aussi ça qui nous plaît à tous dans ce club.
Xavier ?
Oui.
Ouais, alors, comment c'est venu la passion pour le foot US ?
Bah en fait, ça fait pas mal d'années. À l'époque, quand Canal Plus est arrivé, des années, je crois, c'est les années 80.
Oui.
C'était les premiers à passer du sport américain.
Oui, avec Georges Eddy, hein, qui commentait le basket à l'époque et qui commentait aussi le foot US.
Basket, hockey et football américain. Et je suis tombé là-dessus un soir en me cachant pour regarder la télé. À l'époque où on pouvait décoder, enfin un décodeur maison pour Canal Plus. Et je suis tombé là-dessus. Et j'ai vraiment adoré ce sport.
Oui.
Du coup, à l'époque, bon, c'était pas très bien médiatisé, sachant que, par exemple, le sport, le club le plus vieux en France, c'est les Météores. Ils sont enfoncés sous moi, mais avant, c'était un agent. Donc, il n'y avait pas trop d'infrastructures.
Oui.
Et puis, bon, quelques années plus tard et tout, en regardant et tout, machin, après, bon, il n'y avait plus Canal Plus et tout, machin. Et je suis parti au lycée à Fontenay-sous-Bois et j'ai vu le terrain, qui était un terrain de sport classique. de venir à un terrain de football américain, vraiment avec les cotations et tout. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer dans ce club-là.
Ouais, donc, c'est mon truc, quoi.
Voilà. Donc, quelques années après, je suis rentré dans ce club-là, de football américain, avec mon petit frère. Et puis après, j'ai eu un coloc qui était un pote aussi, qu'on s'est connu au lycée. Et puis on s'est revus chez les pompiers de Paris. Et puis après, on s'est revus sur le terrain. Il m'a dit, vas-y, viens, viens chez Loublanc, qui était à Choisy-le-Roi. C'était la première ville de Choisy-le-Roi. Je suis parti là-bas. Et puis après, les 89ers sont nés. Et puis je suis resté pour les 89ers.
Voilà. Donc, et puis, tu as trouvé ta voie, quoi, finalement. Exactement. C'est un sport qui te plaît. Hein.
Ouais. Ça fait une dizaine d'années que je fais.
Ouais. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Donc, 10 ans déjà de. Alors, justement, tu as un poste privilégié. Parce que quand on arrive comme ça au foot américain, comment ça se passe?
En fait, ce qui est bien, c'est qu'au football américain, chaque poste, c'est par rapport au caractère de chaque personne.
D'accord. C'est pas en fonction de la morphologie?
Oui, on peut dire ça aussi. Ouais. Généralement, les, comme en NFL, généralement, les quarterbacks, ils sont assez grands.
Ouais.
C'est comme une tour de contrôle pour voir au-dessus.
Ouais. Comme un pivot pour le basket, quoi.
Exactement. Voilà. Les running backs, ils sont un peu plus petits, un peu plus trapus pour se faufiler. Les hommes de ligne, ils sont massifs et grands pour faire un mur, par exemple. Voilà.
Ouais, c'est comme le rugby avec les trois quarts et puis les...
Exactement, c'est un sport, ouais, c'est un sport cousin.
Bien sûr. Et toi donc, Kevin, ton poste?
Je suis running back, justement. Je suis
petit. Alors, justement, tu vas nous dire, parce que, bon, c'est des expressions, mais le grand public, ceux qui nous écoutent, ils connaissent peut-être pas forcément le foot US. Alors déjà, le foot US, on va d'abord dire, vous êtes combien par équipe sur le terrain?
En fait, il y a deux... En fait, il faut savoir qu'il y a l'attaque et la défense. Donc, c'est 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense.
D'accord, ok. Donc,
après, il y a tout ce qui est spécial team. Après, ça dépend des grands clubs, mais généralement, on est entre 30 et 35 à peu près de joueurs par équipe.
Pour faire un match, il faut être 22 joueurs. Hein,
voilà, c'est ça. Donc, 11. Les matchs durent combien de temps? Bon, moi, je le sais, mais le grand public ne le sait pas forcément.
Alors, normalement, c'est 4 cartons de 15 minutes.
C'est ça.
Mais généralement, ça dure énormément de temps. On peut compter minimum 3 heures. 2h30, 3h, facile, un match.
Ouais, c'est-à-dire, pourquoi c'est les pauses qui sont longues?
Exactement, en fait.
Il y a, la pub à passer, même à Choisy-le-Roi, non, je blague.
Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu. Par exemple, il faut 4 essais pour faire 10 yards.
Ouais.
Et en fait, une fois qu'on a fait un essai, il y a le temps de se remettre en place pour le relancer. Mm-hmm. Donc, en fait, ça prend du temps. Après, y a, une fois qu'on a fait les 4 essais, si on a réussi à faire 10 yards, on a encore un nouveau 4 essais, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et, par exemple, si on n'arrive pas à faire les 10 yards, la balle passe à l'adversaire. Donc, en fait, tout ça, ça prend énormément de temps. Et du coup, en fait, les 15 minutes se transforment en beaucoup plus de temps.
Après, il y a les temps morts et tout. C'est pour ça que même dans ce sport-là, l'aspect temps rentre en ligne de compte. Comment on fait un temps mort? Comment on peut jouer avec le temps?
Oui. Alors, les temps morts, ils sont demandés par les entraîneurs?
Soit par les entraîneurs ou soit par les joueurs. Il faut signaler à l'arbitre.
Ouais. Il y a combien de temps morts qu'on peut donc accepter dans un match? Parce que, bon, on ne va pas être... arrêter un match toutes les minutes, quand
je crois
même.
C'est 3 temps morts par mi-temps, je crois.
3 temps morts par... Ah oui, quand même.
Oui.
Par carton?
Par mi-temps.
Par mi-temps.
Par mi-temps, c'est-à-dire sur 2 cartons, quoi.
En fait, la première mi-temps se décompose de 2 cartons et la deuxième mi-temps de 2 cartons pareil. Mm-hmm.
Et le décompte des points, alors, ça se passe comment?
Alors, c'est simple. Il y a un TD, c'est 6 points.
Donc, alors, un TD, on va dire ce que c'est. Hein.
Ouais, c'est une fois qu'on franchit la zone
d'accord,
dans le but.
D'accord, qu'on a passé la
voilà,
zone dans but.
C'est 6 points. Alors, soit on fait un field goal qui nous rapporte un point, soit on peut la transformer, ça nous rapporte 2 points. Donc, en fait, la transformation, c'est un nouveau TD, du coup, qui nous rapporte 2 points. Ou sinon, il y a le field goal classique qui nous rapporte 3 points.
D'accord.
On peut, pour comprendre un peu mieux aussi, faire comparer aussi au rugby. Aussi. Le rugby, quand il marque un essai, quand il marque dans la zone d'en but, pour nous, c'est 6 points.
Ouais, ouais.
Après, ils font la transformation au pied.
Voilà, c'est
ça. Pour nous, c'est 1 point supplémentaire.
D'accord.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut être plus vaillant au football américain. Au lieu de la mettre au pied, dans les haches, on peut essayer de la jouer au sol. Donc c'est,
c'est
2 points supplémentaires.
C'est ça la transformation.
Mais c'est un peu plus corsé.
Ouais.
Voilà. Après, on peut faire comme un essai de loin, entre parenthèses, par rapport au rugby.
Oui, bien sûr.
Donc c'est 3 points.
D'accord. Ouais, parce que ça, je dis ça parce que parfois, c'est un petit peu compliqué, les règles, pour le grand public. Hein.
Ah, mais les règles, en fait, les règles sont assez simples, en fait. Si je donne les bases d'un...
Alors, vas-y.
Je vais te couper, Xavier. les règles sont simples une fois que tu comprends le jeu. Oui. Mais pour quelqu'un qui regarde le football américain pour une des premières fois ou qui n'a pas l'habitude, c'est quand même assez compliqué.
Ouais, c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'on essaye de... Ouais.
Moi, j'ai une manière d'expliquer les règles. Juste la base. Avec la base, on peut suivre n'importe quel match. C'est comme le football, football européen pour différencier avec le football américain. Football européen pour il est si populaire que c'est le sport d'équipe.
Hein.
C'est le sport d'équipe qui a le moins de règles.
Ouais, c'est facile à comprendre.
Le gardien touche la balle avec les mains, son tous les joueurs touchent avec les pieds. Mm-hmm. Après, c'est les particularités, les hors-jeux, les retours en arrière, comme dans tout le sport. En football américain, on va compter ça en mètres. Ça va être plus simple pour les auditeurs.
Ouais,
un terrain, c'est 120 mètres, on va dire. Y a une équipe A et une équipe B. Si l'équipe A engage le match à la balle, donc l'équipe A va mettre son unité d'attaque. Donc l'équipe B qui défend, elle va mettre son unité de défense. D'accord ? L'équipe A qui met en place son unité d'attaque a 4 chances pour faire 10 mètres.
D'accord.
Donc soit elle les fait en un coup, soit elle les fait en 4 fois. Mais il faut faire les 10 mètres. L'équipe B, qui a son unité de défense, elle, c'est empêcher l'équipe A de faire les 10 mètres. D'accord ? Une fois que l'équipe A a épuisé, soit ses 4 chances, elle n'a pas réussi à passer la frontière des 10 mètres, ça passe, la balle passe à l'équipe B. Ou alors, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils tentent 3 chances, et la 4e chance, ils rendent la balle à l'adversaire en la tapant au pied le plus loin possible. Comme ça, quand ils vont défendre dans la zone d'embut adverse.
Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de stratégie.
C'est un jeu très stratégique.
Ouais, ouais.
Voilà. Mmh. Et si l'équipe A n'a pas réussi à faire ses 4 chances, donc ça passe à l'équipe B. Donc, l'équipe B, elle, va retirer son unité de défense pour mettre en place son unité d'attaque. Et l'équipe A va enlever son unité d'attaque pour passer son unité de défense.
Mmh.
Si on a compris ça, on peut suivre n'importe quel match de football américain.
Voilà. C'est clair, c'est bien. C'est limpide pour le grand public. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir tout le monde.
L'homme du MMA, il nous parlera MMA tout à l'heure. Le foot américain ?
Bah écoute,
t'as les petits yeux ? T'as vu, il a fait le Super Bowl hier.
Bah écoute, j'ai essayé le foot américain quand j'étais petit.
Ouais.
Au club de la Courneuve, je crois. Les Flash. Voilà, les Flash et tout. Ouais. J'avais essayé. Mais malheureusement, j'avais un peu d'appréhension parce que je trouvais que. En fait, j'étais avec beaucoup de jeunes de ma génération, mais qui avaient des gros gabarits. Et moi, j'étais plutôt mince à l'époque.
Tu veux pas receveur ?
Ouais. Donc du coup j'ai
dit, gabarit.
Forcément, donc du coup j'ai eu un peu peur, mais j'aurais vraiment aimé continuer, mais c'était je pense qu'il y avait aussi la distance, parce que j'habitais à Épinay-sur-Seine, donc fallait prendre des transports, les cours, ils avaient surtout lieu la nuit, quoi, forcément.
Mais t'es où là maintenant?
Là j'habite à Pontoise.
Ouais.
Pontoise.
Ouais.
Ouais, Pontoise.
Ça, tu aurais dit viens chez nous.
Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, faudrait tester un jour, j'aime bien.
Mais il ira tester, il ira faire une démonstration, vous viendrez faire un petit truc de MMA en même temps.
Hein, carrément.
Intéressant.
Il n'y a pas de problème.
Oui. Alors donc, après chacun a un poste bien défini ou on peut en changer?
Après, on peut en changer.
Oui.
Comme moi, je suis un peu polyvalent.
Parce qu'on faisait la comparaison sur le rugby, il y a des gens qui trois quarts centre qui peuvent jouer arrière ou des fois ouvreur ou même trois quarts. Hein,
par exemple, JJ Watt,
pareil
qui
pour les
jouait chez les. Non, pas chez les buts. JJ Watt jouait chez quelle équipe? Je ne sais plus, en NFL.
Ouais.
En fait, sa position c'est O-line, D-line. O-line, c'est les gros de la ligne offensive.
Ouais.
Et D-line. C'est les gros de la ligne défensive, c'est les premières lignes.
Donc il pouvait jouer les
deux.
Ouais,
donc
ouais.
Soit extérieur, donc D-end, donc fin de ligne.
Ouais, ouais.
Soit au milieu, les noses.
D'accord.
Ça, c'est pour la défense.
Mm-hmm.
Soit en attaque, il peut jouer tight end. Donc c'est un O-line hybride. Il peut être soit receveur pour les passes courtes, ou soit bloqueur pour protéger le QB derrière.
Mm-hmm.
Ou soit centre. En fait, il a une telle capacité d'adaptation qu'on peut être, on pouvait le placer où on veut.
Ouais, ouais. Mais enfin, d'une façon générale, on se spécialise quand même.
Oui, mais oui, j'ai commencé linebacker parce que moi, je suis quelqu'un de très agressif sur le terrain. Mm-hmm. J'ai pas peur de
contact. Je suis d'accord.
Ouais.
C'est bien.
Et comme je suis assez puissant et assez agile, donc je peux jouer D-end.
Mm-hmm.
Voilà. Et comme je suis assez puissant, je peux tenir les gros en tant que nose.
D'accord.
Voilà.
Et donc, Kevin, toi, ton poste?
Moi, je suis running back, ouais. Du coup. C'est-à-dire que moi, le QB me donne de la balle et je suis censé foncer dans le tas. Enfin, c'est un peu ma définition de mon poste. Ouais,
ouais. Comme les piliers, quoi, ou le tas. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Enfin, comme a expliqué Xavier, à la base, les running sont censés prendre le ballon, se faufiler pour pouvoir grappiller le plus de mètres possible. Alors moi, comme je n'ai pas cette agilité-là et que je suis un peu plus imposant, je fonce dans le tas et j'essaye de grappiller.
On rentre dans ton trou.
Oui, voilà, mais voilà, donc j'essaye de grappiller le maximum de yards possible en essayant de rentrer dans les gens directement, quoi.
Alors, est-ce que on peut considérer, pour ceux qui nous écoutent ce soir, que le foot américain est un sport dangereux? Bon, Benoît nous disait qu'il ne tentait pas avoir le gabarit, il n'a pas voulu continuer. Mais bon, on est obligé d'avoir une certaine corpulence, d'être grand. Si on fait 1m60 et 55 kilos, on peut...
Non, je ne suis pas forcément d'accord. Après, maintenant, quel sport n'est pas dangereux en réalité? Oui. Je pense qu'il
y a très peu d'accidents.
Donc, tous les sports de contact, c'est en cours. Comment ça va déjà, ton prénom?
Oui. Benoît.
Comme au MMA, en boxe, c'est tout quoi que ce soit. Toi,
Vraiment dans tous les sports. Ouais, c'est ça. Dans tous les sports.
Vous savez, je connais quelqu'un qui est plus petit. Enfin, Benoît, je t'ai pas bien vu, mais
pas de souci.
Un peu plus petit que toi et qui est peut-être un peu plus fin. Et lui, il joue en défense et il a pas peur d'aller sur les gars qui sont plus balèzes que lui, quoi. Donc après, je pense que
c'est de la technique aussi. C'est pas plus violent que le rugby.
Oui.
Après, c'est le temps de contact qui est différent. Au rugby, c'est temps de contact, il est plus long. C'est souvent du départ arrêté. D'accord. Au football américain, le temps de contact est plus court, mais sauf que la distance on prend est beaucoup plus longue. Par exemple, au niveau du point de départ de la balle, par exemple, le run qui va être derrière, on va dire, on va être à, peut-être, il peut prendre la balle à 5-6 mètres derrière, la ligne, et les linebackers sont à 5-6 mètres aussi derrière. Et le but des linebackers, donc c'est le deuxième rideau défensif, c'est d'aller au plaquage. Donc lui, il va partir pleine balle. Le run, lui, c'est passé. Donc lui, il va partir pleine balle. Donc c'est le contact, ce contact qui est là. Mais après, c'est que de la technique. Donc si on prend bien l'adversaire, si on plaque bien, ça peut paraître impressionnant, mais en fait, on ne ressent rien, on ne sent rien.
Et puis, vous avez des protections quand même.
Oui.
Hein, bon, alors ça, la protection, elle est à la charge du pratiquant. Et de la pratiquante éventuellement?
Non, ça dépend. Par exemple, je sais que nous, notre club, il fournit les équipements avec. Après, c'est en fonction de chacun. Par exemple, si on veut avoir telle épaulière ou tel casque.
Alors, on va rappeler d'abord l'équipement type obligatoire.
Alors, c'est épaulière, casque. Ouais. Et alors, ça s'appelle un pad. C'est un pantalon avec 5 ou 7 protections.
Avec des plaques de protection.
C'est ça, des plaques de protection.
Sur les cuisses, sur les fesses, côte 6, hanche.
Et ça, c'est trouvable dans tous les commerces de sport, non? Ou alors, c'est bien particulier?
Alors, c'est un peu particulier, surtout que sur Paris, ils ne sont pas beaucoup à en faire, malheureusement.
Eh ben oui.
Voilà, parce que le football américain en France n'est pas si démocratisé que ça.
On va en parler.
On peut dire les marques ou pas?
Bah, dites la marque.
Allez. Amazon.
Ah, Amazon, d'accord. On peut commander par Amazon.
Amazon, ça arrive tout de suite. Amazon.
D'accord.
Épaulière Amazon, hop, on trouve. D'accord. Après, il y a certaines boutiques comme... à Paris,
je sais pas si on peut dire le nom, mais
allez-y,
Diamond.
Non, Diam Sport.
Diam Sport.
D'accord.
Bah, c'est
mais c'est spécialisé, c'est spécialisé.
C'est spécialisé. D'accord.
Sport américain.
Bon, sport américain surtout.
Baseball et.
Est-ce que c'est cher?
Tout dépend de l'équipement, tout dépend le budget. On peut trouver. Ben moi, je m'étais acheté un casque d'occasion de 150 euros.
Ah oui, quand même.
Et un bon casque, ça entre 400, 600 euros.
Mais ça dure des années quand même.
Bah, c'est au moins 10 ans.
Ouais, au moins 10 ans. Voilà.
Moi, quand j'ai commencé, j'achetais mes épaulières, elles coûtaient 99 euros. Moi, j'ai acheté mon équipement moi. Et mon casque, il a coûté 100, 160 euros.
Les prix, ils ont bien augmenté depuis. Hein, parce que
c'est vraiment les casques à l'ancienne.
Oui, bah oui.
Et puis maintenant, après, ma compagne m'a offert un super beau casque. Qui, moi, je pense, doit être à 800-900 euros. C'est les mêmes casques que les pros qu'on voit à NFL.
Ah oui, par contre, à l'intérieur, on ne sent pas les chocs. C'est des petits coussins. Franchement, c'est
alors,
incroyable. Il a un Nike Pro Combat avec une plaque anti-commotion. Sauf que si ça s'enfonce, ça veut dire qu'en fait, ça a pris trop de chocs, il faut changer de casque. Et ça protège vraiment très, très bien.
Alors, est-ce que ce n'est pas un désavantage pour les parents, justement, d'avoir à payer un tel coût et un tel matériel pour emmener son enfant au foot américain?
Non, en fait, ça dépend parce que la première année, comme je vous dis, le oui. club peut prêter les équipements. Mmh. Ça veut dire que si vraiment derrière l'enfant,
il veut continuer,
vaudrait mieux partir sur son propre équipement. Mmh. C'est-à-dire que ça permettrait aussi à d'autres personnes qui veulent essayer ce sport-là de pouvoir en profiter.
Sinon, la licence, la cotisation, c'est combien?
Alors quand on a nos équipements, on est à 200 euros.
200 euros à l'année,
Et
on loue, je crois que c'est 45 euros à l'année, l'équipement casque et polière.
Je crois que c'est 150. C'est-à-dire 50 que ce serait 250 le tout. Mmh. Après, il y aurait le pad au frais directement des joueurs, parce que c'est en fonction des gabarits, c'est en fonction des tailles.
Ouais. Mmh. Donc, il y a beaucoup de clubs dans la région. Il y a beaucoup de clubs.
Il y en a pas mal.
Ouais, ouais. C'est-à-dire
Alors, je ne sais pas.
Allez-y.
Non, il y a vraiment pas mal de clubs. Je sais que nous, on est deux clubs. Mais c'est pas de la même commune. Mm-hmm. Voilà, donc après, nous, on joue dans notre division avec vraiment pas mal de clubs. Ça dépend. Après, c'est vrai qu'en France, surprenant, il y en a beaucoup.
Parce que Paris, il n'y a pas beaucoup de clubs quand même. Il y a 3-4 clubs. Hein.
Non, il y en a Paris, un peu plus.
Ouais. Il y a les Dragons
Ça dépend des divisions aussi.
Oui.
Ça dépend de dans laquelle division on est. Ça dépend de pas mal de choses. Mm-hmm. Donc, non, en vrai, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de clubs en région parisienne.
Okay, division, première division, deuxième, troisième division, régionale. Quoi. Mm-hmm. C'est comme au foot classique. Oui,
bien sûr.
Après, le problème, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas démocratisé. Donc, les gens, des fois, ne savent même pas qu'il y a un club à côté de chez eux.
Ouais, c'est ça.
Malheureusement, donc, des fois, ils sont surpris de se dire, mais attendez, à 200 mètres de chez moi, en fait, j'ai un club, je ne savais pas du tout. Mm-hmm. Donc, c'est aussi, ça joue contre nous. À ce niveau-là.
À Choisy, vous êtes combien de membres cette année?
Cette année, on est une vingtaine de membres à Choisy.
Vingtaine? Pas plus?
Non, pas plus.
Pas plus, ouais.
Pas plus.
Bon, bah alors allez-y, hein. On vient vous rejoindre. C'est pas très loin.
Bien sûr. Bah, après, c'est vrai que, en fonction des boules de travail de chacun, des disponibilités, c'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'on est une vingtaine et c'est des gens assez fidèles qui sont là depuis quand même pas mal d'années déjà.
En amateur, comme disait
César.
Les Flèches de la Courneuve, eux, ils sont en moins une cinquantaine.
Ah ouais, cinquantaine.
Ils sont en première division, ils ont été champions de France.
Mais c'est ça, c'est pas
une équipe de France.
C'est pas le même palmarès non plus.
Exactement.
C'est que nous, on est vraiment.
Il y a des gens qui ont gagné la Coupe du Monde.
Ok.
Dans les Flèches, il y en a beaucoup qui sont partis chez les Mousquetaires de Paris.
Ok.
Qui ont joué cet été d'ailleurs contre des équipes.
Des équipes européennes.
Ouais, européennes, voilà.
Allemande, polonaise.
Donc, si on veut venir vous rejoindre, ce n'est pas encore exclu.
Non, mais ce ne sera jamais exclu de toute façon.
Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Choisy-Laurent? Vous avez un terrain approprié ou alors...
Oui, bien sûr.
Il faut partager les installations avec d'autres. C'est un peu le problème de certains sports comme les vôtres. On en parlait la semaine dernière pour le hockey sur gazon aussi.
Ben, après, il faut savoir que nous, à Choisy-Laurent, on a notre terrain d'entraînement, on a un terrain de match. Après, c'est vrai qu'on est en division.
C'est de l'herbe, c'est de la pousse normale.
De l'herbe.
C'est de l'herbe.
Ouais.
Après, on espère monter en division un peu plus haute pour pouvoir avoir des terrains avec du synthé qui sont un peu plus officiels.
Ouais, la mairie aussi nous a passé aussi un gymnase pour trouver plus le positionnement, un peu au chaud, quoi que ce soit. Et puis, on a nos entraînements le lundi et le jeudi sur un terrain. Et on a un autre terrain de match.
D'accord. Et les saisons, donc, vous êtes en plein dedans ou c'est fini là?
Non, on est en plein dedans.
Vous êtes en plein dedans, je m'en doutais. Hein.
On est en plein dedans, on a commencé en novembre. Ouais. La saison officielle qui va se fermer en juin-juillet.
Alors, vous jouez contre quelles équipes? Quelles sont? On parlait de la Courneuve, mais il y a d'autres équipes que vous rencontrez, non?
Oui,
c'est pas le même niveau.
Alors, la Courneuve, c'est pas du tout notre niveau.
C'est pas le même niveau, c'est ça.
La Courneuve, c'est juste Paris-Marseille.
Ouais, c'est
vraiment.
Nous, on est plus en bas, quoi.
Ok.
Donc, vous jouez contre qui? En championnat. Oui, par exemple, les clubs. C'est pour montrer un petit peu aussi que tous les clubs qui existent dans la région. Il y a des filles qui jouent?
Des filles?
Oui.
Oui, il y a des clubs qui ont une section féminine.
Oui.
Mais nous, apparemment, on n'a pas de filles. Donc, on ne peut pas ouvrir de section féminine, mais les filles sont les bienvenues pour qu'on puisse ouvrir une section féminine.
Mmh. Alors, à 20, ça se passe comment pour les entraînements?
Comment ça?
C'est-à-dire, ça se passe comment pour les entraînements? Il y a deux, trois séances d'entraînement par semaine?
Oui. On a trois séances d'entraînement par semaine. Mm-hmm. D'accord. Au début, ça commence par du renforcement musculaire. préparer le corps. Après, on prépare nos jeux, on prépare nos tactiques, on prépare nos positionnements, on prépare nos tactiques individuelles. Après, chacun chez soi peut faire un peu de musculation, un peu de course à pied, pour entretenir quoi que ce soit. Quoi. Mais après, tout se passe bien.
Alors, vous jouez contre qui?
Alors, bah, y a les molosses, il y a les cougars.
Oui, mais ça vient d'où, les molosses de... Non, parce que...
Effectivement.
On dira que bon, chacun doit avoir...
Molosse, c'est Agnières, je crois.
Ouais. C'est, ça vient d'où, cette, cette habitude d'avoir une identité particulière de nom dans un... Par exemple, les molosses, pourquoi les molosses? Vous, pourquoi les Haiti-Niners?
Haiti-Niners, par rapport à... Parce que Roger de Lille, c'est ça, choisi le roi. Et par rapport à la Révolution française.
D'accord, non, ouais.
Il y a toujours une histoire. 89,
ça, c'est important. Ouais, ça, c'est important de le dire. Voilà. Ouais, c'est bien. Et ça, c'est une tradition du foot américain.
Oui, après, je pense que ça dépend des clubs, ça dépend de. Mais oui, généralement, on se base par rapport à où on est situé.
D'accord.
On est situé, pardon. Et
Donc, vous jouez contre les molosses. On a cru comprendre que c'était sur Agnières, c'est ça?
Il y a les ogres de Créteil.
Oui, voilà, les ogres de Créteil.
D'ailleurs, ils doivent faire des beaux derbys, là.
Il me semble qu'à Agnières, ils ont un grand terrain, là, parce que il est tout récent. Enfin, tout récent, non, il doit dater d'une quinzaine d'années, je crois. Mais
les molosses ont joué en première division. Je ne sais pas s'ils sont descendus aussi, mais.
Et vous, vous êtes.
Je ne sais pas du tout, mais je sais que.
Il y a les gladiateurs aussi. De loin. Les Cambry.
D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord.
Et 94 aussi. Okay.
Généralement, c'est des équipes en région parisienne.
Ouais, bien sûr.
Après, donc, les équipes en première division aussi.
Okay. Donc les matchs se déroulent le samedi, le dimanche.
Généralement, c'est le dimanche. Après, de temps en temps, on peut jouer le samedi. Nous, faut savoir que le dimanche, c'est à partir de 14h.
D'accord.
Voilà. Et le samedi, généralement, c'est le soir.
Bon. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient vous voir? Est-ce que vous avez vos fidèles, votre club de supporters?
Oui, on a quelques fans.
Oui, quelques fans. C'est bien.
Après, on n'est pas assez gros pour avoir beaucoup de fans. Pas comme les Flash, pas comme les Dragons de Paris, pas comme les Météores.
Les Mousquetaires.
Les Mousquetaires, pas comme les Black Panthers de Thonon-les-Bains, pas comme les Blues-Sards de Marseille. Ça, c'est des très, très grosses équipes. Mais oui, on a quelques fans.
D'accord.
Une petite vingtaine de personnes qui
aiment
regarder.
Après, je pense que aussi ça dépend de l'équipe qui est en face.
Oui, bien sûr.
Voilà, de leur notoriété dans la ville.
Ouais, c'est surtout ça.
C'est ça.
Parce que je sais que les Flash de la Courneuve, ils avaient de la notoriété à la Courneuve, mais aussi dans les villes avoisinantes. Donc du coup, on entendait parler d'eux et ça donnait envie.
Rivalité aussi entre clubs aussi.
Ouais.
Oui, c'est ça, exactement, les derbies.
Bon, ça va, ça se passe bien en général sur le terrain et...
Ça dépend.
Et dans les tribunes, ah bon, il peut y avoir des débordements?
Ça dépend de...
Après, quand t'as des bons derbies comme...
Ouais, mais enfin, il n'y a pas de...
Black Phoenix, anciennement Citizen et nous, parce qu'en fait, c'est...
Ça dépend des rancœurs, en fait.
Des rancœurs, en fait.
Entre joueurs.
Qui a fait les Black Phoenix, c'est, à la base, c'était l'équipe première, les Loups Blancs, en fait. Et les Black Phoenix ont été créés par un...
Un ancien
joueur des Loups Blancs. Et puis les autres anciens joueurs ont fait les Haiti Niners. Ouais. Donc maintenant, la rancœur n'existe plus, parce que c'est de nouveaux joueurs. Il n'y a que les anciens qui entretiennent ça. Mais bon, après, c'est comme la rancœur Paris-Marseille. On ne sait pas pourquoi c'est là, c'est là.
Ouais. Et l'arbitrage? Il y a un, deux arbitres par terrain.
Il y en a trois.
Trois,
oui.
Trois par...
Il y a l'arbitre central et deux sur les côtés.
Deux sur les côtés.
Un de chaque côté de chaque équipe pour être sûr de ne louper aucune faute.
Et parfois un quatrième au niveau des... Parce que quand il y a des très grosses rivalités, il y a un quatrième arbitre qui, eux, seront côté joueur contre les spectateurs pour arbitrer. Quoi.
D'accord.
Donc s'il y a des mots qui se disent quoi que ce soit, c'est des fautes et c'est l'équipe qui est pénalisée.
Et l'arbitre, ce sont des bénévoles de club ou il y a carrément des formations d'arbitres même en foot?
Il y a des formations d'arbitres. Par rapport à l'arbitre principal, il faut avoir une formation d'arbitre, il faut être par la ligue. Après, les arbitres de touche, par un autre niveau, je pense que c'est...
Non, ils ont des formations.
C'est des formations, mais c'est plus bénévole.
Oui, bien sûr. Voilà. Parce que la plupart de ce qu'on avait l'année dernière, c'était leur premier match souvent.
Mais l'arbitre général, lui, est payé.
Je sais pas, d'accord.
Après, c'est une trentaine, quarantaine, c'est un niveau amateur.
C'est pour ça que tu veux devenir arbitre central.
Un petit billet comme ça.
Bien sûr.
Les arbitres, je les mange.
Écoutez, on va faire la première pause musicale. Un lien avec donc, le foot américain, c'était celui qui apparemment était sur l'estrade hier.
Usher.
On l'écoute.
Il n'y avait pas que lui.
Usher, Post Malone, Ludacris, qui ça?
Allez, on y va.
Genre, c'est pas mal.
On l'écoute.
Yeah, yeah.
Voilà, il était sur l'estrade donc hier soir au cours de cette finale, oui, remportée donc par les Chiefs de Kansas City, 25-22 après prolongation face donc aux 49ers de San Francisco. Troisième victoire en 5 ans, c'est une victoire méritée pour vous ?
Oui, c'est un très grand QB.
Ouais.
non, bien sûr. Alors, début de saison, on va dire un peu mauvaise quand même. Donc, il a su rattraper et effectivement amener son équipe jusqu'au Super Bowl. Mahomes sait faire du Mahomes, évidemment. Donc, c'est pas surprenant. Même si j'aurais préféré voir les 49ers gagner.
Ouais, d'accord. Bah, écoutez, ça arrive. Super Bowl. Ouais. Même analyse, non ?
Oui, franchement, oui. Oui, ils ont commencé un peu doucement. Ils ont commencé un peu doucement, puis ils ont bien terminé. Mm-hmm. Après, oui, c'est le troisième Super Bowl qu'ils gagnent.
Oui, en 5 ans, ouais, ouais.
En 5 ans, hein.
Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas innocent quand même. Non. Ça prouve que c'est la régularité, quoi.
Oui. Après, je crois que le premier Super Bowl qu'ils ont gagné, c'est le premier Super Bowl qui a été fait. C'est eux qui ont gagné les premiers, je crois. Mm-hmm. Parce que ça fait 50 ans. Ça fait que 58 ans que ça existe, le Super Bowl.
Oui.
C'est une genre de Ligue des Champions, quoi. Mm-hmm. Il y a deux ligues, en fait, au football américain. Il y a l'AFC et la NFC. Mm-hmm. Et chacun veut dire celui qui a les plus grosses, en fait. Donc, ils ont dit, écoutez, pour départager...
Ouais.
On va faire le Super Bowl. Mm-hmm. Ils ont fait le Super Bowl, et donc c'est la meilleure équipe. C'est comme la Ligue des Champions, en fait.
Ouais, okay.
C'est ça, c'est exactement ça. Mm-hmm.
Alors, vous avez veillé très tard. Je sais qu'il y a des cafés, il y a des pubs qui ouvrent la nuit comme ça pour siffler les finales.
Alors, moi, je travaille au SAMU.
Ouais.
Donc, j'ai essayé de regarder par intermittence au SAMU.
Bah oui, c'est un petit peu
donc,
compliqué.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pu suivre un peu.
Ouais.
Donc puis je suis rentré à la maison, déjà j'ai fait une nuit blanche déjà, donc je suis rentré à la maison pour revoir le match par rapport
pour venir en parler aujourd'hui, c'est la moindre des choses.
Bon, pour voir les trucs que j'ai loupé ou quoi que ce soit, mais franchement à la fin c'était très
prenant, très passionnant,
très prenant, très
serré,
très serré parce qu'à la fin il y a une petite pression,
pour
savoir qui va gagner et tout.
Après ça, cette pression elle existe même si c'est pas le Super Bowl et que c'est une de nos équipes favorites. Quand on regarde un match et qu'on
voit
c'est
quand même
serré à chaque fin de match, voilà, ça prend au cœur, quoi. C'est vraiment.
Et Kevin,
oui, moi j'ai regardé
jusqu'au bout.
Alors pas jusqu'au bout. je me suis endormi un peu avant. J'étais chez moi. Voilà.
C'est que la finale n'était pas extraordinaire. Alors non.
Non, mais alors. En fait, le match était vraiment très intéressant et c'est vrai que dès les premières minutes de jeu, on a senti que c'était quand même assez serré. Après, c'est vrai, ce qui est bien avec le Super Bowl en général, c'est que ça réunit les gens. Comme vous avez dit juste avant, dans un bar, dans un café, ou même les gens, des fois, se prêtent au jeu et disent venez regarder le Super Bowl chez moi. Ce qui permet aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément ce sport-là de regarder et d'apprendre les règles directement.
Les Américains ont bien fait en sorte que le sport reste du spectacle.
Pour faire la différence,
la comparaison, on voit le Super Bowl, on regarde, on voit les avions de chasse, les gros bombardiers qui volent tout doucement. Au-dessus et tout, les soldats américains qui marchent, l'île nationale, les feux d'artifice et tout machin. Comparé à la Coupe du Monde de football européen, on arrive, l'île nationale, leurs enfants de là.
C'est pas les mêmes budgets aussi.
Effectivement, c'est pas les mêmes budgets.
Mais ils ont essayé de faire ça pour la Coupe du Monde du rugby.
Mm-hmm.
Bon, c'est une première, donc c'est vrai, ça passe, c'est pas super, mais c'était une bonne initiative. Mais les Américains ont réussi à faire en sorte que ce soit c'est un spectacle en fait. Même si on ne connaît pas ce sport, on n'aime pas trop, mais le fait de voir cet événement, les feux d'artifice, ce spectacle.
Après, c'est culturel aux États-Unis, c'est une culture du spectacle qui n'est pas la même qu'en France.
Ah ouais, c'est du show, 100% du show.
Alors,
tout le temps.
Ouais, Vanessa, tu as suivi ça tout le week-end, toute la nuit, toi et tout. Tu voulais un mot sur la finale et puis tu voulais poser quelques questions.
Oui,
après, on passera au MMA.
Tout à fait, j'avais une petite question. Est-ce que des fois vous organisez entre vous, justement pour le Super Bowl, vous vous réunissez et puis.
Oui.
Vous mettez un peu dans l'ambiance. Enfin,
des nuggets, des burgers.
Voilà. C'est comme ça qu'on gagne les matchs. Hein.
des bières.
Mais vous rigolez, mais il y a des milliards de cuisses de poulet vendues et de litres de bière. Ouais, et
38
et
milliards de
wings.
Wings.
En une journée.
parce qu'on
28 millions de ribs.
Incroyable.
Parce qu'en fait, on se prête au jeu.
Oui, c'est vrai. C'est
simple. On se dit c'est américain, au lieu de se ramener avec une salade, poulet, on
bien
va
sûr, bien sûr,
box,
bien sûr, bien
de...
sûr.
Vous avez déjà pu aller voir un match
Super Bowl.
Oui.
Oh, ça...
Parce que c'est énorme. Je crois que c'est minimum 2000 euros la place.
C'est tout en haut. Tout en haut, à côté des toilettes, derrière le public. Et le carry VIP.
45 000.
On parlait des US.
2 millions. La loge VIP.
Le spectacle.
Deux sièges, deux places, avec buffet et tout ça, c'est 2 millions.
C'est ça.
Sachant que pour voir un match du Super Bowl, si j'achète un billet là, c'est pas pour celui l'année prochaine. Hein.
Oui.
C'est dans 3 ans, 4 ans. C'est que.
Ah oui.
Ça part tellement vite, il y a une attente dans 3, 4, 5 ans. Quoi. On peut pas dire, tiens, je vais prendre le billet pour voir mon équipe qui joue. Non, c'est. T'as acheté ton billet, dans 5 ans, tu verras quelle équipe.
D'accord.
Quelle équipe sera là. Quoi.
Alors, c'est pareil au MMA.
Ah non, clairement pas.
C'est pour faire la transition.
Il y a pas du tout le, il y a pas du tout le même, il y a pas, je pense, le MMA n'a pas le même impact aux États-Unis que le football américain, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne plutôt bien.
Il s'est passé quoi ce mois-ci?
On va dire que ce mois-ci, moi, écoute, je suis plutôt content de mes pronostics, comme je te l'avais dit. Cette année 2024 est une année française du MMA et elle commence bien parce qu'on a eu la victoire du coup du combattant français Nassourdine Imanov. Je ne sais pas si vous suivez un peu le MMA. Déjà, lui, il est très bien. En plus de ça, il a gagné. Et il n'a pas seulement gagné, puisqu'il a affronté quand même il me semble que c'était quelqu'un qui était dans le classement des 10 meilleurs de sa catégorie. Et du coup, par sa victoire, du coup, Nassourdine Imanov rentre dans la 8e position des 10 meilleurs combattants.
C'est l'UFC, ça, non ?
De l'UFC, des poids moyens. Du coup, ça fait qu'on a encore un combattant français en plus qu'à la cote et clairement qui est très dangereux dans sa catégorie et qui potentiellement peut prétendre à la ceinture. Et ça, c'est quand même extraordinaire pour une année 2024. Il faut rappeler que le MMA a été légalisé il y a très peu.
Oui.
Donc du coup, on a déjà des futurs champions potentiels. Et donc pour moi, c'est plutôt une année, comme je te l'avais dit, qui commence très très bien. Il y a également du coup l'annonce du combat, de plusieurs combats intéressants. Comme je crois que j'en avais parlé de Benoît Saint-Denis, il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. Là, il y a une future date qui approche au
top
mois de mars.
15. Je fais partie des 15 meilleurs.
Il est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est
classé. Il est entré dans le top 15. Hein.
Il est entré dans le top 15, je crois qu'il est à la 12e ou 13e position.
C'est des 15 meilleurs.
Exactement.
Surtout les points moyens.
C'est exactement. Et là,
ce qu'ils ont faim, c'est ce qu'il y a le plus de joueurs.
C'est clairement ça. C'est une catégorie d'élite, comme tu le cites bien. C'est une catégorie d'élite, car clairement tous les combattants là-bas, c'est des tueurs. Hein, voilà, faut pas les croiser dans la rue. Et le fait que lui, il rentre dans le top 15, c'est extraordinaire. Et là, actuellement, il va affronter de la catégorie, si je dis pas de bêtises, l'un des mecs qui fait partie du top 5. C'est Dustin Poirier, c'est un peu une légende du MMA.
Il y a pas un problème de poids, je crois, un truc comme ça. Il va avoir un combat qui s'est pas fait, je crois.
Qui a été reporté.
Mais je crois pas que c'est de Benoît Saint-Denis. Je crois pas que c'est
Poirier et...
Non, je crois que c'est plutôt Michael Chandler et Connor où il y a eu peut-être un problème de poids.
Ouais.
Je suis pas sûr, mais à vérifier, parce que j'avoue, c'est vrai que j'avais fait un problème de poids, mais je suis pas sûr que ce soit avec Benoît Saint-Denis. Et donc du coup, son combat, lui, il arrive en mars. Il arrive je ne dis pas de bêtises, il arrive le 9 mars.
Ah c'est bien.
Et oui.
Tu pourras venir en parler. C'est ton lundi.
Exactement.
Tu pourras venir en parler.
Exactement. Il me spoil toute ma présentation, mais j'aime beaucoup. Ça fait plaisir.
C'est un truc de malade.
Ça fait plaisir. C'est qu'on a trois combats. On a plusieurs combats extraordinaires. Donc, du coup, je vais commencer par le moins important. On va dire le second, c'est le combat de. Qui n'est pas du MMA d'ailleurs. Qui n'est pas du MMA. C'est du coup Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Qui aura celui-là le 8 mars. Ça, du coup, 8 mars. Etc. Et dans la foulée, juste avant, on a Cédric Doumbé contre Baki. Et là, du coup, puisque vous êtes là, est-ce que vous avez des pronostics, messieurs, dames?
Ah, c'est compliqué. Déjà, Cédric Doumbé, il doit avoir du sang américain parce qu'il sait faire le show. Il a fait connaître la France aux États-Unis.
On est d'accord.
Avec son matelas, et en plus d'après la légende.
Pas qu'avec son matelas, avec son palmarès d'avant aussi quand même. Ouais,
même palmarès d'avant, ça fait une dizaine d'années qu'il est là et pas beaucoup de monde entend parler du Glory à part si on est vraiment à fond dedans. Ouais. Quoi.
Mais concrètement, est-ce que vous avez un avis ou pas sur ce combat?
Après, c'est compliqué parce qu'en fait, Doumbé, c'est un excellent striker. 78 combats, 74 KO. Donc, c'est tout ouf. C'est un peu la foudre qu'il a dans les poings. C'est un canon César en Ukraine.
Je pense qu'il ne parle pas pour rien et qu'il sait ce qu'il vaut et qu'il est capable. Oui. Comme a dit Xavier, 78 combats, 74 KO.
Ouais.
Avec Jordan, il l'avait prévenu.
Ouais.
Là, il le dit, Baki, même s'il s'entraîne, même s'il a l'air aussi sûr de lui, il ne faut pas oublier, il a été 6 fois...
Onze fois champion du Glory.
Donc c'est pas dans le vent.
Ouais.
Donc je pense que à un moment donné, Baki va se retrouver face à un mur.
Après c'est du MMA.
Ok. Donc toi tu penches pour Baki.
Non,
tu penches pour Doumbé, excuse-moi.
Après Baki, il peut surprendre.
Oui. C'est du MMA.
Après c'est du MMA parce qu'en fait quand on regarde les combats de Baki et de Doumbé, Doumbé, moi, il fait ses pronostics, machin et tout. Puis après, lui, hein, il assomme. Il est là pour terminer le mec. C'est un finisseur. Baki, c'est pas un finisseur.
Baki, c'est... Baki, c'est pas un finisseur, Baki. La plupart des combats de Baki, c'est... ça part un peu en phase de lutte. Donc, en fait, Baki va être un combattant, pour moi, hein, pour moi, c'est mon avis, un peu plus intelligent que Jordan Zebo.
Oui.
Jordan Zebo, lui, il est rentré dans direct. Il est rentré dans le jeu de Cédric.
Bah, je dirais même plus simple qu'il a été totalement perturbé par le trash talking. Il en a parlé en interview. Et je pense que voilà, là, on a vu la puissance des attaques de Cédric Doumbé avant le combat. Et là, ça s'est ressenti dans le combat.
Et Baki va être Baki va être un peu plus intelligent parce que Baki, lui, ce qu'il veut, c'est gagner le combat. Peu importe comment. Oui, soit au point, c'est que ce soit par KO, il va gagner. Et Baki, il a son expérience de judo.
Oui.
Donc en fait, c'est, au niveau des balayages amenés au sol, ce n'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir. À part ceux qu'à l'époque, on regardait le Pride. Ou le Pride. Parce qu'on voyait beaucoup de judoka, parce que ça se passait au Japon. Donc on voyait pas ça. Mais en France, non, les balayages debout. Franchement, on n'en voit pas. Hein. La plupart, c'est soit de la lutte, soit de la lutte gréco-romaine, soit du jiu-jitsu, ou soit du...
Donc, tu pars pour, du coup, Cédric Doumbé.
Voilà.
Je pars pour Cédric Doumbé, mais ça va être intéressant.
Ok, ok.
Intéressant. Donc, après, il y a un troisième combat. Parce que Baki peut pourrir. Hein.
Et le... Non, bah, du coup...
Ouais.
Non, j'ai un peu... retirer le combat de coup de Francis Ngannou et de Anthony Joshua.
Ouais, parce qu'on
va pas se mentir,
ouais.
Ça c'est plutôt un combat d'exhibition. Donc d'accord. Du coup, ouais. C'est plus pour la fame.
D'accord.
On va être honnête, mais quand même, s'il y a un bon résultat de la part de Francis Ngannou, là il rentre dans la légende, clairement.
Et ces combats-là, ils ont lieu où?
Si je dis pas de bêtises, il aura lieu en Arabie Saoudite. Anthony Joshua contre Francis Ngannou sera en Arabie Saoudite. Pour d'accord. L'instant, c'est un peu le pays où tout ce qui n'est pas conventionnel se fait.
Voilà. Joshua va se faire manger par Ngannou.
Ah, moi je pense qu'il va l'éteindre. Ouais. Moi je pense qu'il va calmer. Il va calmer.
Qui combat Tyson Fury Prime. Donc Tyson Fury au plus haut niveau. C'est pas à la fin de sa carrière ou au plus haut niveau.
Oui.
Qui l'assomme, qui tombe par terre deux, trois fois. Il danse sur lui en plus, sur son combat.
Bah, c'est... Oui, en fait, pour moi, c'était surprenant, mais je pense qu'Anthony Joshua, il a bien regardé le combat. Et psychologiquement, je pense qu'il ne va pas arriver avec la même désinvolture que Fury.
Il n'a pas la même puissance qu'un Deontay Wilder qui a combattu.
Oui, tout à fait. Tyson
Fury.
Tout à fait.
Deontay Wilder, il est au-dessus de Joshua.
Ah oui, clairement. Mais. Moi, bon. Je pense qu'il sera beaucoup plus préparé.
Bon, faites attention parce qu'on ressort les bandes après le combat le 11 mars. Hein.
Aïe, 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 aïe.
On saura qu'il s'est trompé dans les pronostics.
Je vais faire comme Doumbé. Après, je vous avais dit quoi?
Après, ça reste du sport.
Après, donc, il y a d'autres infos?
Bah, du coup, moi
aussi. Pour l'instant,
pour moi, c'est les trois infos principales et c'était surtout ça que je voulais partager avec vous ce soir.
D'accord. Alors, attention, hein, j'ai bien dit, il revient le 11 mars, donc là,
on sort les bandes. Pas
t'inquiète pas. Aucun problème.
Voilà. Bon, tu restes avec nous parce qu'on va enfourcher les skis maintenant.
Oui.
Et puis la carabine.
Exactement.
Il y a les championnats du monde de biathlon aussi. Okay. Hein, on parle de tout le sport. On parle de sport. Et Vanessa, elle n'a pas raté une miette. Et en plus, on a des très bons résultats en biathlon, Vanessa.
Exactement. Les championnats du monde de biathlon, la Coupe du monde de biathlon a commencé mercredi dernier à Nové Mesto, en République tchèque. Et dès le premier jour, on a fait une superbe ouverture avec la médaille d'or en relais mixte. Donc avec Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Julia Simon et Justine Brézaboucher. Donc première médaille d'or pour la France. Eh ben, on n'en avait pas assez. Donc vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, un triplé, un quadruplé.
Oui, ça, dans j'ai le jamais vu. Hein.
Quadruplé des Françaises, jamais vu, historique, magnifique. Enfin, c'est, je pense qu'elle-même était surprise. Et puis, personne ne s'y attendait à ce résultat. Donc, Julia Simon remporte le sprint 7,5 km femme devant Justine Brézaboucher et Lou Jamono, quatrième place de Sophie Chauveau. Enfin, c'est magnifique. Donc, ça veut dire un podium 100% tricolore, beaucoup d'émotions, forcément. Et puis, cette victoire, c'est non seulement celle des filles en biathlon,
oui,
mais aussi des biathlètes. Mais,
parce qu'il y a un manque chez les hommes, quand même.
Oui,
hein.
Alors, on n'a pas encore été décroché de médaille chez les garçons. Pourtant, c'est vrai qu'on a une équipe solide qui a de l'expérience, notamment avec Quentin Fignon-Maillet. Et puis, alors, c'était pas terminé parce que donc vendredi on fait un triplé en or et puis dimanche on fait deux médailles. On fait Julia Simon qui pour la deuxième fois championne du monde
qui a fait la une de l'équipe d'ailleurs.
Poursuit une femme exactement, ouais. La une de l'équipe de samedi et aujourd'hui.
Ouais.
Et aujourd'hui, enfin les filles, c'est assez rare que le biathlon fasse la une, donc c'est super. Et ça donne de la vie, encore plus de visibilité à ce sport. Et puis, ce que je voulais rajouter, donc dimanche, dans la poursuite femme 10 km, donc, Julia Simon remporte la compétition devant l'Italienne et troisième place de Justine Brézaboucher. Voilà. Quatrième place à nouveau pour Sophie Chauveau. Donc, et puis, c'est aussi une victoire de tous les techniciens qui ont une importance significative, très importante, justement, pour la préparation des biathlètes, puisqu'ils fartent les skis. Que si les skis ne glissent pas bien, ça compromet aussi un peu les chances. Donc voilà, ça a été vraiment une lumière. On est très bon en biathlon, mais c'est de très bons résultats. Il y a aussi la perspective, bien sûr, de 2026, des JO de Cortina d'Ampezzo en Italie. Et en attendant, ça fait une très bonne place pour la France. Donc.
Et ce n'est pas fini. Hein. Il y a encore toute la semaine qui arrive.
Exactement.
Elle viendra nous refaire un bilan la semaine prochaine, en même temps que la natation, hein, qui est un petit peu plus confidentielle, parce que ce n'est peut-être pas très bien placé dans l'année. Hein.
On est sur une année olympique. Ouais. Donc y aura
il y en a
pas,
beaucoup qu'on fait forfait. Hein.
Oui, parce qu'il n'y aura pas des têtes d'affiche, parce qu'ils se préparent pour les Jeux. Évidemment, c'est une échéance qui est beaucoup plus importante. Donc voilà. Mais ça permet aussi à des personnes qui sont peut-être un peu moins connues de se roder, de se faire connaître. Et c'est toujours intéressant parce que ça donne encore un autre prisme à cette compétition. Et voilà. Mmh. Et c'est la préparation pour les prochains JO aussi. Enfin, voilà.
Très bien. Au niveau du foot américain, est-ce qu'il y a des cours dans les écoles? Est-ce que les écoles viennent vous voir pour, pourquoi pas, s'initier à ce sport? Vous faites des partenariats avec des...
Non, c'est déjà arrivé de faire des ateliers avec un partenariat avec la mairie de Choisy-le-Roi.
Oui, c'est bien.
Qu'il y a des écoles qui viennent nous voir pour faire le sport. Donc différentes positions, soit un circuit pour les runs, soit des phases d'impact avec un gros coussin qu'on appelle un bouclier. C'est un énorme coussin parce que la personne rentre dedans. Soit des phases de quarterback, de lancer de ballon ou quoi que ce soit. Quoi. C'est assez ludique.
Ouais. Alors justement, vous avez une activité dérivée dont on a parlé la semaine dernière qui était aux Jeux mondiaux de la jeunesse, qui va être aussi discipline olympique, c'est le flag football. Oui. C'est ça, hein. Donc ça, c'est l'initiation du foot américain pour les jeunes, éventuellement.
Parce qu'en fait, le flag en fait, a été inventé pour qu'il est tout petit, puisse jouer au foot américain sans contact. Mmh. Donc il n'y a zéro contact.
C'est le problème, ça.
Exactement, voilà. Mmh. Donc oui, et en plus, en France, on a une très bonne équipe de flag. Ouais. C'est l'équipe des Météores de Fontenay-sous-Bois, qui a été plusieurs fois championne de France, championne d'Europe aussi.
Donc, si on, au fait, vos couleurs de club, ce sont lesquelles? Elles sont comment? Les couleurs de maillot de José Leroy?
C'est noir et or.
Noir et or.
Noir et or, d'accord, ok. Avec un numéro bien défini?
Bien sûr.
Comment vous le choisissez?
Déjà, moi, c'est 78, parce que c'est comme ça.
D'accord. C'est quoi l'année de naissance?
Non,
mais faut que le numéro soit éligible, en fait.
Oui, c'est ça. On peut avoir un... Ah oui, d'accord.
Voilà, par exemple, moi, alors, je ne me rappelle plus exactement de quel nombre à quel nombre c'est éligible. Par exemple, moi, je porte le numéro 14. Mmh. C'est un de mes numéros fétiches.
D'accord.
Et en fait, il se trouve qu'il est éligible pour le porter de ballon.
D'accord.
Comme en fait, à mon poste, je peux soit recevoir, soit prendre le ballon. Voilà. Donc, ça collait très bien.
Bon, vous parliez tout à l'heure des matchs où vous allez, donc, que vous allez disputer, les équipes que vous rencontrez, où vous vous déplacez. Les résultats sont bons pour l'instant?
Alors, pour l'instant, on a fait un match et les résultats sont très bons.
Une belle victoire en plus.
Ouais, ouais. Très, très belle victoire.
C'est combien à 36
6, je crois.
36-6.
Ouais.
Ah bah c'est bien. C'est
oui,
bien.
Oui, mais alors après, voilà, on travaille aussi.
C'est le début. Hein.
Voilà, ouais. C'est le début. C'est le début, ouais. C'était le premier match. Il y a eu un mois de trêve.
Avec, oui. Avec une très bonne équipe, celle de Marne-la-Vallée, je crois, non c'est les Saints.
Non, c'est pas les Gladiateurs. Non, je sais pas.
Non, c'est les Saints. C'est les Saints de Marne-la-Vallée, je crois. En fait, je sais pas où, alors les Glades.
Ouais, je crois que c'est les Glades.
Les Glades, ouais, c'est les Glades.
Je crois que c'est les Glades. Donc ouais, parce que même chez nous il y a un mois de trêve,
ah du oui.
coup voilà faut le dire, on l'a fait et du coup là on va reprendre tranquillement la
ça
saison.
Donc jusqu'au mois de mai ça va aller après.
C'est ça.
Et après il y a des tournois de fin de saison, des fêtes de fin de saison comme disait Vanessa, c'est parfois les réunions aussi qui fédèrent un groupe, un collectif.
Oui, bah c'est ouais. ça, c'est surtout et c'est aussi pour ça que chez nous chez les 89ers, ce qui est bien c'est que chaque fin d'année on se retrouve tous ensemble, on fait l'AG, donc en fait déjà le club vis-à-vis des vis-à-vis de la comptabilité est très transparente vis-à-vis des joueurs, premièrement. Donc ça, c'est un plus. Après, on est aussi très proche entre président, vice-président, coach, coordinateur. Donc ça rajoute quand même ce côté familial. Et en plus de ça, donc petit barbecue de fin de saison entre nous. Voilà.
Chaque fin d'année, on a un peu général.
C'est bien.
On monte les comptes,
c'est bien.
Les dépenses, ouais. les entrées d'argent, ce qui
reste,
a été fait,
exactement.
Ce qui reste. Alors, est-ce que la personne veut toujours être présidente? On vote et tout. Est-ce que lui peut être entraîneur? En fait, c'est vraiment très famille.
Démocratique aussi.
Ouais, très démocratique. Et ça fonctionne très, très bien. Parce que comme ça, tout le monde est content. Il n'y a pas de...
C'est ça. Voilà. C'est, si quelqu'un a quelque chose à dire, ben, il le dit. Si quelqu'un a des suggestions pour améliorer le club ou pour l'année d'après.
Ou veut être dans l'équipe dirigeante, encadrante, voilà, parce que des fois on fait les deux. Hein.
Oui, bien
sûr.
Pour ça,
je vous posais la question.
Faut savoir que chez nous, il y a plusieurs personnes qui ont eu accès à la formation de coaching.
C'est bien,
voilà,
c'est bien.
Parce qu'il y en a deux, trois en tant que joueurs qui peuvent former des plus petits, des juniors, voilà, pour pouvoir à la suite en fait fidéliser ces juniors-là pour qu'ils passent en senior avec nous et alimenter toujours le club en fait.
Il y a un relais.
Exactement, c'est un relais.
Vanessa, une question avant la pause musicale, non?
Oui, et vous faites aussi beaucoup de troisième mi-temps, un peu comme au rugby.
Bah, bien sûr, c'est dans la tradition.
Alors... Est-ce que vous avez des lieux, des...
Oh,
général...
des rituels?
Faut pas le dire, faut pas le dire.
Généralement, c'est secret, c'est devant les vestiaires, une petite bière.
Non, mais ce qui est bien...
Pour savoir un petit peu l'ambiance, l'état d'esprit, en fait... parce qu'il y a toujours, dans un sport... une ambiance, quelque
bien
chose.
Sûr.
Surtout les sports courts, hein. Et c'est là qu'on gagne les matchs en plus.
Et même les sports individuels.
Bah, vous savez quoi, la première année où moi je suis arrivé chez l'IT, c'était une année un peu compliquée, surtout moi en tant que rookie. C'est ce côté-là, après chaque match où on était tous ensemble, on rigolait, on avait des boissons, certains fumaient leur clope, puis d'autres buvaient des bières, mais on restait tous ensemble, on rigolait, et franchement, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de t'as pas fait ton travail. Non, c'était vraiment, on était tous ensemble. Et des fois, même avec les équipes adverses, on continue à parler avec eux. C'est un sport vraiment très convivial. Tant qu'il n'y a pas d'animosité ou de rancœur par la suite.
Ce sport-là, c'est un sport individuel qui se joue collectivement. Chaque personne a son tracé à son jeu. Si on ne fait pas son tracé, en fait, ça impacte tout le monde.
Ouais. Ok.
Donc si on sait que la personne a une petite faiblesse, là t'as à côté peut rattraper.
Ok.
En fait, c'est solidaire en fait. Tout seul on peut pas se démarquer, il faut un groupe.
Ok.
Eh ben c'est bien, justement à la fête on va la faire. You two, New Year's Day.
Changes on New Year's Day.
Voilà, merci en tout cas donc à notre ami Benoît qui ça va un petit peu plus tôt, il viendra faire une initiation donc foot américain, puis nos amis de Choisy foot américain, eux iront faire un petit peu de MMA. En attendant, on va finir avec comme chaque semaine par l'actu foot, actu très abondante, très dense, avec notre ami donc du quotidien du sport Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir. Stéphane Desenclos, bonsoir. Stéphane n'est pas prêt. Bon, alors on va donc en passer au foot américain. Est-ce qu'on peut vivre de ce sport? Est-ce que c'est possible de vivre de ce sport?
En France?
Oui.
En France, il y a... faut aller dans... ouais, en élite.
D'accord.
Il n'y a que très peu de personnes.
D'accord. Ok, alors notre ami Stéphane est prêt. On blanchera sur la question donc à la fin de cette émission. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Ouais. Bonsoir Philippe.
Ouais. Donc une abondante actu foot cette semaine, Stéphane, marquée naturellement, on l'a vécu sur donc Mon Paris FM, par la troisième Coupe d'Afrique des Nations qui a décroché donc la Côte d'Ivoire en s'imposant tout à fait logiquement en finale face au Nigeria 2-1.
Ouais, presque trop. Un ouais, scénario presque trop calme pour la Côte d'Ivoire, ça quand même. Mais ouais, donc ça s'est fini, c'est incroyable. Notre amant, il doit être dans le coin là pour son émission tout à l'heure, Malik, qui avait quand même dit...
Il a fêté ça toute la nuit. Hein.
Ah oui, mais dès que moi, je suis épaté, qu'on a appris qu'ils étaient repêchés, il a dit, bon, maintenant, on va la gagner.
C'est vrai qu'on va quand même rappeler que c'est un drôle de parcours. Hein. C'est quand même la 16e équipe de qualifiés, c'est-à-dire la moins bonne des repêchés, hein, des 3e. Après, il y a ce parcours où elle bat le Sénégal donc, au tir au but. Elle va s'imposer à 10 dans la prolongation après être revenue juste à la fin du temps réglementaire face au Mali. C'est vrai que c'est souvent un parcours de champion. Ça rappelle un peu l'Italie de 82 ou un degré moindre le Portugal de 2016.
Ouais, tout à fait, ouais, non, mais c'est sûr que c'est... Bah, bravo à eux, hein, bravo à la Côte d'Ivoire.
Alors, on va rappeler quand même que donc, l'Afrique du Sud, hein, qui avait, on l'avait dit la semaine dernière, donc battu le Maroc en 8e de finale, et ensuite le Cap-Vert, qui avait battu le Cap-Vert au tir au but en quart de finale, eh bien l'Afrique du Sud quand même termine 3e de cette Coupe du Monde en battant donc la République du Congo 0-0 après prolongation, 6-5 au tir au but. Ça, c'était un petit peu plus inattendu, l'Afrique du Sud et la République du Congo.
Ouais, tout à fait. Bah, le Congo, je ne sais pas, au fil de la dont ils ont fait des bons matchs, on les a un petit peu sentis venir, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont pas loin quand même, ils n'étaient pas très loin de la finale et du titre, quoi. La preuve d'ailleurs, c'est que ça fait 0-0 là.
Oui, puis ils ont été battus 1-0 en demi-finale seulement. Hein. Ils ont été battus 1-0.
Donc c'était, c'était quand même très, très, très chaud, c'était très, très serré. Mm-hmm. Moi, je dirais que pour moi, la plus grosse surprise de cette dans le carré final, en tout cas, c'est l'Afrique du Sud.
Oui, l'Afrique du Sud qui, on l'a dit, a battu le Maroc en 8e, on en parlait la semaine dernière, 2-0, avant de s'imposer de justesse au tir au but devant une très bonne équipe du Cap-Vert, hein, avec l'exploit de son gardien. Hein.
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai que, non, pour moi, c'est l'équipe la plus surprise. Bon, je ne parle pas des parcours, parce qu'effectivement, il faut quand même se rappeler que la Côte d'Ivoire, avant la compétition, on l'a oublié, mais avant la compétition, tout le monde citait les 4 favoris, c'était le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, ouais, et après, voilà, 3 surtout, et après, il y avait, selon certains, l'Algérie ou
le Nigeria,
c'est quand même bien placé. Hein. Ils ont chuté dans les pronostics à partir du moment où ils ont fait ce premier tour très compliqué.
Oui, on va rappeler, Stéphane, on va rappeler 2 défaites en phase de poule quand même. Hein, devant le Nigeria, justement, 1-0. Et surtout, ce 4-0 devant la Guinée équatoriale.
C'est fou parce que c'est 4-0. Ça veut dire que si on vous dit un mois avant la compétition, donc on sait que par exemple avant l'Euro, ou si on vous dit à une Coupe du Monde, les troisièmes sont repêchés, les meilleurs troisièmes sont repêchés, vous dites si quitte à perdre, il ne faut surtout pas prendre autant de buts, quoi.
Ben oui.
Donc en gagner qu'un match dans la phase de poule, quoi, perdre les deux autres, et en perdre 2 et puis en quête dont un par 4-0, on vous dit cette équipe-là, elle va être repêchée. Personne n'y croit. Hein.
En plus, elle a été 4e, meilleure 3e, hein, 16e, 16e qualifiée, elle s'est passée ric-rac, hein, comme l'Italie en 82.
Ouais. Hein. Ouais, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait, voilà.
Alors, on va rappeler aussi qu'en parallèle, donc, il y avait la Coupe d'Asie des Nations et le Qatar a battu la Jordanie 3-1. Je crois que c'est la troisième victoire consécutive des Qataris.
Ouais.
On parle de la Coupe de France. Avant de parler du championnat, on a eu en tout cas donc des huitièmes de finale où il y a eu quelques surprises. Alors, on ne parlera pas de Sochaux hein, qui a malheureusement mis fin à son parcours, logiquement battu à domicile par Rennes 6-1. Lyon, par contre, qui a battu Lille 2-1. Peut-être qu'en championnat, on aurait eu un match un peu différent. Victoire de Nice à Montpellier 4-1. Strasbourg qui bat le Havre 3-1. Ça, c'était pour les matchs de Ligue 1. Grosse surprise pour Le Puy qui bat Laval 2-1. Et puis Valenciennes qui a battu celui qui était Cendrillon, donc Saint-Priest 2-1. Et puis surtout aussi Rouen, l'équipe de Rouen, qui a déjoué tous les pronostics en battant au tir au but Monaco 1-1 après prolongation 6-5. Et puis le Paris Saint-Germain qui a battu Brest 3-1. On a eu un très beau match de foot, un très beau match de coupe entre le PSG et Brest. Hein.
Oui, tout à fait. Non, mais là, moi, je trouve, vous savez que je suis très, très football français.
Ouais. Ah oui, super match. Hein.
Et je pense que là, dernièrement, là, cette semaine, on a vu des beaux matchs, effectivement, en coupe PSG-Brest. Après, bon, on va y venir après. Bon, en championnat aussi, il y a eu des très bons matchs, dont un très, très bon derby de la Côte d'Azur
Monaco-Nice,
hier soir.
Nice-Monaco, plutôt.
Très, très bon match. Quoi. Mmh. Et donc, c'est sympa. Il se passe aussi des choses sympathiques avec les équipes de Ligue 1. Je pense que ceux qui ont vu Montpellier-Nice, bien sûr, qui n'étaient pas pour les supporters de Montpellier, ils ont dû quand même se régaler. Puis même à un autre niveau d'émotion, le Rouen-Monaco en Coupe de France, il était bien aussi. Il était engagé. Il était une très très bonne équipe de Rouen, une beaucoup moins bonne équipe de Monaco, et puis des sortes de tirs au but incroyables aussi, quoi. Donc il y avait de l'émotion, il y avait du niveau pour certains matchs, de l'émotion. Non, c'était vraiment une super semaine de football. Quoi.
Et PSG-Brest, belle équipe, mais le talent donc offensif des Parisiens a fait la différence.
Ouais, tout à fait. Ouais. Le talent offensif des Parisiens a fait la différence. Et puis aussi le jeu, quoi qu'il arrive, hein, on continue à dire. Le PSG ceci, le PSG cela. Bon, le PSG le PSG ils sont là, quoi. Et puis ils sont là. Et c'est pas là. En plus Mbappé joue pas, donc on peut même pas ne jouer pas.
Oui, dans le championnat, hein, ils jouent
là. Oui, dans le championnat, je parle du championnat là. Dans les matchs, donc ils sont capables. Ouais. Je veux dire par là qu'ils sont capables de faire des belles choses aussi. Donc non, c'était bien. Mais Brest c'est aussi une super belle équipe. Après, c'est vrai qu'on comprend moins qu'ils aillent faire un match nul à Clermont, par exemple. Mais moi, je m'attends. Non, mais Brest, c'est une super équipe. Et je vous dis, sur la Coupe, championnat, on a vu des très bons comportements des clubs français.
Alors, on va rappeler que les quarts de finale, donc, ce sera durant la semaine du 27 et 28 février. Il y aura un Lyon-Strasbourg, un Rouen-Valenciennes, donc il y aura, quoi qu'il arrive, une équipe hors Ligue 1, donc dans le carré d'As. Le Puy-Rennes, le Puy qui devient maintenant le Cendrillon de la Coupe, et puis donc Paris Saint-Germain-Nice, qui est programmé pour cause de Coupe d'Europe, donc le 13 mars. Alors le championnat, on en vient justement, 21e journée, on en parlait, donc Paris Saint-Germain, dans la foulée de sa victoire contre Brest 3-1, Paris Saint-Germain a battu Lille 3-1, sans Mbappé cette fois-ci, mais Paris creuse un peu plus l'écart, parce que Monaco, à l'issue d'un super beau derby, on en a parlé, est allé gagner à Nice 3-2. À noter que ça n'avait pas très bien commencé cette journée au niveau du spectacle, avec un décevant nul entre Marseille et Metz, 1-1, et puis ça s'est amélioré après, avec la victoire de Lens qui a battu Strasbourg 3-1. Rennes qui continue sur sa bonne lancée en gagnant au Havre 1-0. Nul entre Clermont et Brest 1-1. Là, c'est un petit coup d'arrêt quand même pour Brest. Et puis,
c'était vraiment le plus mauvais match de la week-end.
Ouais. Et puis Lorient qui s'impose 2-0. Victoire importante pour les Lorientais face à une équipe de Reims donc battue qui vit une petite période difficile actuellement, les Rémois. Victoire importante de Nantes à Toulouse 2-1, et puis Lyon qui continue sur sa bonne lancée, qui a battu Montpellier 2-1. Semaine difficile pour Montpellier, attention hein, pour les Montpellier.
Ouais, si on veut regarder les conclusions, c'est vrai que Lyon va mieux, même si ça n'a quand même pas été exceptionnel du tout dans le jeu, Lyon, mais en tout cas, on ne demande pas surtout leur position, puis qu'ils gagnent un match à l'extérieur de championnat. On attendra plus tard pour être exceptionnel, hein, donc ils vont surtout le gagner, ce qui est bien. Ils ont subi beaucoup d'occasions, mais finalement c'est effectivement surtout les carences de cette équipe de Montpellier. Bon, j'aurais tendance à dire que si leur attaquant Accor Adams, qui reprend un peu confiance en lui, du physique, là, il était arrêté depuis longtemps, hein. Il a joué, il a raté quasiment tout ce qu'il a pu, il n'était pas dans le très bon état d'esprit, donc c'est un peu embêtant, hein. Donc ça peut les sauver. De toute façon, on peut dire ça pour toutes les équipes, hein. Il y en a surtout une que je vois très très difficilement sauver, c'est Metz. Oui. J'ai été, pour ma part, j'ai vraiment été complètement abasourdi. Vous, Philippe, alors moi j'étais abasourdi par le niveau de cette équipe. Quoi. J'ai regardé le niveau de cette équipe, mais normalement, si Unai il arrive à en mettre ne serait-ce que s'ils arrivent à mettre ne serait-ce que la moitié des occasions énormes qu'ils ont, il y a 3-4. 4-0 pour l'OM, quoi, donc c'est ouais. assez...
Mais comme c'est pas un bon OM, donc voilà.
En plus, ouais, mais ouais. Franchement, j'ai été très, très, très inquiet par une équipe comme Metz, par exemple, même Clermont, qui s'est quand même opposé à Brest, Clermont pouvait faire quelque chose, même Nantes, qui sont dans le bas, et de temps en temps, ils font quand même des choses assez intéressantes, la Lorient se rebelle à une espèce d'énergie, de dynamique sympa, Metz, on avait vu un peu ça en début de saison quand même à l'extérieur, notamment le match qu'ils vont gagner à Monaco, à Lens, même s'ils avaient été hyper dominés. Et non, c'est pour moi, c'est franchement très très inquiétant à mon avis.
Alors justement, donc Paris, on l'a dit, bah, ils prennent le large, 11 points d'avance, donc avec 50 points premier, Nice deuxième 39, troisième Monaco 38, quatrième Brest 37, cinquième Lille et Lens 35, donc ça se resserre, hein, pour les places qualificatives aux Coupes d'Europe. Et puis en bas de tableau, c'est aussi très serré, on l'a dit, Nantes 12e avec et Lyon avec 22 points, Toulouse 14e avec 20 points, 15e justement Montpellier et Lorient 19 points, 17e, on vient d'en parler, Metz, 17 points, et 18e et dernier, donc Clermont avec 16 points. Donc le championnat, il est intéressant pour les places d'honneur et pour le maintien, ouais, et la descente.
On va finir par se répéter,
bah ouais.
Même si je dirais que bon, maintenant, ce qui était de toute façon pressenti, hein, comme beaucoup de fois en début de saison, je vois difficilement le Paris Saint-Germain pouvoir être inquiété. Quoi. Ils ont quand même maintenant... Ils sont quand même passés, vous vous rendez compte, en début de saison, ils avaient un peu de mal et tout. Et puis bon, bah, ils sont quand même passés avec 11 points d'avance sur le...
Oui. Il reste 14 journées, hein. Il reste 14 journées en plus. Hein.
Ouais.
13 journées, voilà, maintenant.
Il reste, ouais. Par rapport à la période, il reste au moins 2 journées. Ouais. 11 points d'avance, 12 sur Monaco. Ouais. Franchement, c'est Nice va avoir peut-être un peu de mal. Comme on a vu quand même dans le derby, c'était un super beau derby.
Oui,
hein,
oui.
Moi qui ne suis pas du tout, par contre, vraiment pas du tout un fan de Nice jusqu'à maintenant, hein, puisque je trouve qu'il ne propose rien, il proposait en tout cas pas de jeu, rien du tout. Bon là, ce n'était pas forcément très académique, en tout cas, ils ont vraiment fait de belles choses avec une grande force mentale, et puis avec deux joueurs très très importants pour eux qui ne sont pas là, donc... et qui vont retrouver là pour le prochain match, qui sont Boga et Mofi. Donc, ils n'ont pas eu de bol, ils ont eu leurs deux joueurs qui sont partis à la CAN. Ils ne jouent pratiquement pas. Je ne sais même pas si l'un et l'autre sont rentrés dans la finale. Je ne crois pas. Et il y en a un qui joue pour le Nigeria, l'autre pour la Côte d'Ivoire, les deux équipes qui vont en finale. Quoi. Donc, ils n'ont pas eu de toute la compétition. Ouais.
Allez, en Ligue 2, il y avait le match des leaders, hein, 24e journée. C'est Auxerre qui a battu Angers 1-0. Victoire de Bordeaux, hein, importante, hein, parce que Grenoble a perdu à Bordeaux et ça décroche un peu. Donc, victoire de Bordeaux devant Grenoble 1-0. Nul pour de Laval à Valenciennes 1-1. Et le Paris FC, donc, également tenu en échec à domicile par Pau 1 partout. Il y a Saint-Etienne 3 ce soir à 20h45. Donc là, en Ligue 2, Auxerre en tête à 47 points devant deuxième Angers 46. Et justement, Grenoble et Laval qui sont un petit peu décrochés, troisième avec 40 points. Et en bas de tableau, par contre, c'est toujours aussi serré pour la descente. 16e 3, 27 points. 17e Dunkerque, 24 points. 18e Annecy, 23 points. 19e Quevilly-Rouen, 21 points. Et il n'y a que Valenciennes qui est pratiquement condamné, 20e avec 15 points.
Voilà, mais bon... c'est ce que je pense aussi pour Valenciennes, mais bon, mine de rien, ils commencent à prendre un petit peu des points. Alors, on ne sait jamais. Hein,
Ils vont être en demi-finale de coupe en plus. Et peut-être ils ont des chances.
Mais non, comme on le disait, bon, on l'attendait un petit peu. C'était un peu prévisible. Il y a une nette baisse de régime quand même de Laval ces dernières semaines.
Même battu en Coupe de France.
Voilà, battu en Coupe de France alors qu'ils avaient gagné à Nantes. Ils s'étaient qualifiés à Nantes. Là, ils font un match nul. Je crois qu'ils ont, je crois qu'ils marquent vers vraiment toute fin de match pour égaliser. Ils ont été longtemps menés. Moi, je les avais vus à Rodez. Ils marquent à la 92e après avoir pendant une demi-heure. C'était fort à l'amour, quoi, tous derrière pour défendre, quoi. Très bon état d'esprit, hein, et bonne équipe. Mais bon, c'est un petit peu chanceux quand même les points qu'ils ont pris. Donc je sais pas s'ils vont arriver à terminer dans le top 5. Hein.
Oui, bah ouais, ils peuvent jusqu'au sixième, ils peuvent jouer les playoffs. Enfin, ils verront bien.
Ouais, on verra bien ce qui va se passer, quoi.
Allez, en national, c'était la 20e journée. Le Red Star a battu Martigues. Là aussi, c'était un match des leaders. On en parlait de Martigues il y a quelques semaines. Le Red Star vainqueur 2-0. Versailles-Le-Mans, match nul 0-0. Il y a Niort qui est donc deuxième du championnat, qui joue contre Nancy depuis 18h30. Donc le Red Star en tête avec 43 points. Devant Niort, deuxième 34. Troisième Martigues 33. Et Versailles est en milieu de tableau avec Villefranche en Beaujolais, Le Mans et Orléans avec 25 points. A noter que Sochaux est toujours donc cinquième, mais avec deux matchs en retard.
Voilà. En sachant que New York perdait.
D'accord.
Mais je sais pas où ça en est.
Oui, 18h30. On va essayer de le retrouver, puis on dira ça. Il n'y avait pas de journée donc de nationale. Alors, un petit mot sur les féminines aussi, hein, parce qu'il y avait un autre match important, un autre match choc. Lyon-Paris-Saint-Germain. Premier petit couac, j'allais dire, pour les Lyonnaises, tenu à domicile par le PSG 1-1. Victoire du Paris FC à Bordeaux 6-2, et puis de Guingamp devant Fleury-Mérogis 3-1. Donc, Lyon toujours en tête avec 43 points. Devant le PSG, deuxième 33, un match en moins. Troisième Paris FC, 31 points, un match en moins. Et quatrième, donc Montpellier, 22 points. Voilà, premier petit couac pour Lyon.
Voilà, mais Lyon qui égalise à la dernière minute du match la but contre son camp de la Parisienne. Mais bon, on en avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière ensemble, Philippe. C'était carrément un match pour du beurre, quoi. C'est-à-dire que le PSG, qui est à 10 points, je crois, de Lyon, ne pourra pas revenir sur Lyon. Et le PSG a assez d'avance sur le quatrième pour que le quatrième ne revienne pas. Le Paris FC peut éventuellement revenir au gré des résultats sur Paris, mais PSG, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans les playoffs, le deuxième rencontrera le troisième, donc elles se rencontreront, que peu importe l'ordre des places, hein, celui qui est troisième et celui qui est deuxième. Donc, dans ce championnat, il y a une lutte pour la quatrième place entre Reims et Montpellier, je crois, exactement. Mais c'est tout ce qu'il y a de aujourd'hui. Il n'y a plus que ça. C'est pour ça qu'on dit les playoffs. Bah, on est beaucoup. En tout cas, moi, je suis très, très, très pour les playoffs. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, ça amène pas beaucoup de suspense en plus, quoi. Il y a un partout entre 93e minute, partout.
D'accord, on était en train de le chercher, sinon j'aurais demandé à mes invités de le chercher sur les sites sportifs. Bah, donc un partout.
D'accord. Mais là, c'est que la mi-temps, Orléans-Rouen. Il y a 0-0.
Très bien. Alors justement, on parlait des féminines. On connaît les tirages au sort et leurs adversaires en Ligue des Champions. Benfica-Lyon pour les Lyonnaises. Et puis Beka Akin, qui sont donc des Finlandaises, contre le PSG.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et que, bah, normalement, je pense que pour les deux équipes, les deux équipes sont favorites, je pense, quoi, maintenant.
Et d'ailleurs, elles vont se rencontrer, si elles passent, en demi-finale. Donc on aura au moins une équipe française en finale, en cas de qualification des deux équipes.
Voilà, c'est pour dire, si pour revenir encore au match d'hier, hein, entre une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions, une éventuelle finale de play-off, il va y avoir peut-être des PSG Lyon plus importants que celui d'hier soir.
Et puis pour finir, Stéphane, on va simplement rappeler, hein, dans cette abondante semaine foot, qu'en Ligue des Nations, il y aura un beau tableau pour l'équipe de France, hein, à partir de l'automne 2024. Italie, Belgique et Israël, on va se régaler.
Ouais, c'est des grosses équipes, quoi. Donc, Mais bon, on va se régaler, on va voir. C'est pas, je ne sais pas si la fédération était très contente de ça, j'en sais rien.
Bah pour nous, tant mieux, ça va faire de belles affiches.
Voilà, jouer l'Italie, je ne sais pas si c'est...
quand même.
C'est bien, je ne sais pas si c'est gage de spectacle. Maintenant, moi, c'est vrai qu'il y a des Belgique-France, finalement, il n'y en a pas souvent. Enfin, bon, Italie-France non plus, mais c'est un peu délectant, quoi. Et puis après, voir ce match contre Israël, il va falloir... Je sens qu'en France, tel que je nous connais, les Français, on va en parler 3 mois avant, on va en parler 3 mois après, de la sécurité, des trucs, on va voir tout le monde débouler pour donner son avis et tout, pour organiser un tel match en France.
Merci Stéphane pour Soin Foot. Rendez-vous la semaine prochaine, semaine importante, hein, puisque on fera un retour sur les Coupes d'Europe et puis dans quelques minutes avec l'ami Malik pour Au bout du foot. Ok.
Ok, bah, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci, voilà pour le Point Foot. Alors, on va revenir justement sur donc est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Il reste 2-3 minutes pour en foot américain.
En France?
Oui, en France. Et puis, est-ce qu'il faut partir à l'étranger?
Bah, le mieux, c'est partir à l'étranger, jouer en Allemagne.
Oui.
Aux États-Unis, en universitaire. Sinon, en France, il n'y en a que très, très peu. Oui. Non, c'est des imports, c'est un SMIC ou un truc comme ça, ou c'est une petite indemnité, mais voilà.
D'accord, ok. Mais et l'équipe de France, elle est bonne en foot américain. On a rencontré, tiens, un des anciens présidents, Jacques Accambray, il y a quelques semaines, pour les fair play. Elle est bonne?
Oui, pour moi, on a des bons joueurs. On a des bons joueurs, parce que plusieurs fois, on a été vice-champion d'Europe.
Ah, quand même.
Mmh. On a des bons joueurs.
Il faut savoir qu'en France, on a des bons joueurs, parce qu'il y en a certains qui sont en NFL, directement.
Il y a Anthony Diablé qui est parti là-haut, il y a le premier joueur.
Il y a Oao aussi chez les Vikings, voilà, qui est en NFL. Ils sont très peu, mais il y en a quand même, c'est-à-dire qu'en France...
Et eux en vivent.
Eux en vivent, d'accord. Ah oui, parce qu'eux bénéficient du coup de la rémunération NFL, parce qu'ils sont directement...
On peut dire que la NFL envisage de faire des sélections en Europe, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de joueurs européens qui montent et qui...
Bien sûr.
Qui vont aux États-Unis, comme en Afrique, quoi que ce soit, ils sont en train de jeter un œil là-dessus pour dire en fait, il y a un petit vivier quelque part là, il faut y aller.
Eh bien, messieurs, merci, ça a été un plaisir de vous avoir, d'être venu parler du foot US. Vous voyez comment marche une émission de radio en direct. Comme on a beaucoup travaillé cette semaine, hein, puisqu'on était donc aux médailles olympiques jeudi au siège du Paris 2024, et puis on était à la présentation hier de l'Adidas Arena, qui a vu d'ailleurs Paris s'imposer assez largement 87 à 65 devant les nordistes de Saint-Quentin. Il y avait Nicolas Karabatic, Ousmane Dembélé, qui était notamment parmi les invités. Le Paris, pour l'instant, est quatrième avec 66,7%, mais avec 2 matchs en moins, donc face à Monaco. En tout cas, c'est un bel outil, et on vous ramènera aussi des interviews qu'on vous diffusera donc la semaine prochaine avec celle ramenée pour les médailles olympiques. Merci Vanessa, tu auras ton bilan sur les championnats du monde de natation et de biathlon.
Exactement, hein, avec grand plaisir.
Voilà. On va remercier aussi donc Jason et puis Léonard pour la mise en route et en place de cette émission sur le plan technique. Et puis on va donner maintenant le témoin à notre ami Malik au bout du foot, hein. Il va revenir sur la longue nuit vécue par la Côte d'Ivoire suite à sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Bonne soirée à tous et à toutes, et rendez-vous la semaine prochaine. On finit avec le groupe Il était une fois, Rien qu'un ciel. Bonne soirée,
au revoir. Bonne soirée. Le jour entrer.